notre chef de notre université, et c'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir ce colloque et de vous souhaiter la bienvenue et la bienvenue à l'Université Ville de Bruxelles pour ceux qui n'en sont pas issus, et pour vous y ouvrir donc ce colloque Interdisciplinarité, discours et réalité. Dans le cadre des séminaires, il y a Prigogine, pensée, la science. Alors, en tant que directeur à la recherche, et j'ai déjà eu l'occasion de dire de manière plus semblable l'année passée pour le colloque précédent, je me félicite évidemment de l'organisation d'une réflexion approfondie et, je le suppose, sereine autour de ces questions qui touchent bon nombre de chercheurs de nos institutions. Et quel meilleur cadre pour assurer une telle réflexion que les séminaires Ilia Prigogine, du nom d'un de nos chercheurs les plus éminents, qui n'a eu de cesse, comme vous le savez, certainement, pour sa carrière, de jeter des ponts entre les disciplines, et dont Pasquale Nardone, je pense, nous parlera et vous parlera bien mieux que je ne pourrais le faire cet après-midi. Alors, dans le cadre des interrogations sur cette interdisciplinarité qui font l'objet de vos débats, je souhaiterais rappeler que si l'ULB met l'accent sur la liberté de la recherche de chacun de nos chercheurs, elle a entendu et elle entend également soutenir et encourager les efforts de ces chercheurs dans cette voie d'interdisciplinarité, et cela dans tous les secteurs de la science. L'objectif étant, et vous y reviendrez bien évidemment, étant de soutenir parallèlement à notre organisation facultaire, c'est-à-dire disciplinaire, une recherche qui part d'un objet plutôt que d'une approche disciplinaire pour réunir des spécialistes d'horizons divers. Et évidemment, je vous laisserai discuter pendant cette journée de la légitimité de ce type d'objectif. Mais c'est néanmoins dans cette optique que diverses initiatives, comme vous le savez sans doute, ont vu le jour ces dernières années. Et je voudrais en citer quelques-unes. C'est le cas du groupement organisé dans le domaine des neurosciences qui a abouti à la création de l'ULB Neuroscience Institute, rassemblant près d'une vingtaine de groupes de recherche issus de quatre facultés différentes. C'est le cas également de la mise sur pied récente de la Maison des sciences humaines, la MSH de l'ULB, qui est un instrument de rencontre entre chercheurs sur une base thématique plutôt disciplinaire, ou encore, et dans le domaine des sciences humaines et sociales. Plus récemment encore, je citerai, comme une dynamique semblable, la mise sur pied de l'ULB Cancer Research Center ou de l'Institute for Interdisciplinary Innovations in Healthcare, ont été portés sur les fonds baptismaux et qui rejoignent ainsi dans cette même dynamique un certain nombre de structures plus anciennes dans notre université, telles que l'Institut d'études européennes ou l'Institut de gestion d'environnement et d'aménagement du territoire, qui elle aussi regroupe déjà depuis un bon moment des chercheurs d'horizons et de disciplines très variées. Alors nous sommes évidemment tous concernés par cette question qui sera débattue aujourd'hui. Car comme c'est rappelé dans le chapeau d'introduction du colloque, les appels à l'interdisciplinarité sont devenus monnaie courante dans de multiples appels à projets auxquels les chercheurs, auxquels nous devons et nous sommes amenés à répondre. Et en effet, il y a évidemment ce qui est discuté aujourd'hui, la recherche interdisciplinaire est largement considérée comme une source importante d'innovation et dans certains cas comme la seule approche possible pour aborder, pour permettre l'analyse de problèmes complexes. Et ceci, et ce point qui est évidemment partie de l'objet de notre journée, ceci sans que pour bon nombre de nos chercheurs, il y ait de réelles formations à ce que c'est cette interdisciplinarité, sans que ces chercheurs soient correctement au fait de ce que recouvre le terme, et ce sera, je suppose, un point central des discussions d'aujourd'hui, ou encore sans qu'ils soient informés de la manière dont cette interdisciplinarité sera prise en compte lors de l'évaluation de leur projet, pour autant qu'elle le soit, et pour autant qu'elle puisse l'être dans des structures d'évaluation qui parfois sont encore trop souvent cloisonnées. Et à cet égard, une perception qui est largement répandue, et je pense que je ne me tromperai pas l'évoquant, mais et aussi bien clair dans les résultats de l'enquête qui nous seront donnés tout à l'heure. Une perception qui est largement répandue, c'est que les projets interdisciplinaires sont moins susceptibles d'être financés par rapport à ceux qui sont centrés sur une thématique ou une approche plus focalisée, plus étroite. Et il y a tenté d'examiner cette question en cherchant une ou l'autre donnée sur un, dans les publications, et il y a l'une ou l'autre étude qui a visé à objectiver quantitativement cette perception qui semble effectivement démontrer que c'est bien le cas. Maintenant, reste à évaluer évidemment quels sont les différents paramètres qui mènent à ça. Alors cet aspect de la question va être, j'en suis sûr, un élément central, un élément en tout cas crucial et important du débat que vous aurez aujourd'hui. Parmi d'autres questions que vous allez débattre, peut-être vous avez pu le lire à nouveau dans le chapeau, l'introduction de votre colloque, l'autre question importante, c'est celle de l'organisation des interactions, des échanges entre chercheurs des différentes disciplines, dont les vocabulaires, méthodologies, modes de réflexion sont souvent très différents, et ce qui rend le dialogue très souvent, ou en tout cas régulièrement, extrêmement compliqué. C'est là aussi un point central. Et je voudrais à cet égard citer quelques phrases. Je pense que vous n'apprendrez pas grand-chose, mais néanmoins, je les ai trouvées illustratives. Je voudrais citer quelques phrases d'un rapport récent d'une expérience d'interdisciplinarité dans le domaine de la gestion de l'eau qui est paru dans la revue Nature en 2015. L'article qui reprend ce rapport est intitulé Interdisciplinarity. Catalyze collaboration. Et je cite la phrase que j'ai revue et que j'ai vue dans cet article qui illustre cet aspect. We observe bioethical researchers accusing social scientists of poor leader and of spending too much time conceptualizing problems without exploring and obtaining solutions. Conversely, social scientists were often frustrated that bioethical researchers were too focused on solutions, reductively overlooking the wider societal implications of the proposed solutions. Alors ceci paraît relativement caricatural, mais c'est probablement pas évoluant par rapport à d'autres expériences, d'autres projets, et entre autres ceux que vous auriez pu avoir, et qui obligent le plus souvent et de manière importante les porteurs de projets à développer des stratégies basées sur l'approfondissement dialogue, je reviendrai à cette question dans quelques minutes. Alors pour conclure, et sans vouloir déflorer les résultats de l'enquête qui vous seront présentés en fin de matinée, je souhaiterais mettre en avant un concept qui est très directement lié à cette citation que je viens d'évoquer et qui paraît central dans la construction de cette interdisciplinarité, si on la veut et si on la souhaite positive et efficiente, à savoir que celle-ci demande une large ouverture d'esprit, du respect de la confiance mutuelle entre acteurs des différentes disciplines, très, très évidemment illustré par le rapport que je viens de citer il y a quelques temps. Et je voudrais ici terminer en disant et en mentionnant combien une chose que je retiendrai de mon mandat de vice-recteur à la recherche dans l'université, mais je suis certain que mes homologues dans d'autres universités mentionneraient la même chose, combien une chose que je retiendrai entre multiples dans l'émission que j'assume, c'est l'opportunité qui m'a été donnée de rencontrer et d'écouter des chercheurs de toutes les disciplines qui font partager leur enthousiasme, leur expertise, leur créativité, leur diversité, leur qualité. Et c'est une qualité d'échange, un enrichissement qui n'a absolument aucun prix et qui me conforte dans l'idée que c'est évidemment la manière dont il faut fonctionner. Ce respect, cette ouverture d'esprit de l'ensemble à l'égard de l'ensemble des disciplines. Alors pour terminer, quelques mots de remerciement et en particulier remercier vivement les orateurs qui ont accepté de partager avec nous, avec vous, leurs connaissances, leurs expériences en la matière, donc plus particulièrement les orateurs qui nous viennent de l'étranger, le professeur Robert Fodman de l'Université de Texas et Jean-Paul Villot de Paris, et tout en excusant comme le font tout à l'heure le professeur Dietrich Reinhardt qui est souffrant et qui devait nous venir de l'EPFL à Lausanne, ou d'autres orateurs qui nous viennent de l'université amie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Remercier et féliciter, comme je l'ai fait l'année passée, mais donc c'est un point important à souligner encore cette année, nos différents collègues qui ont organisé, membres du comité scientifique, à la fois des membres de notre université, Marek Ludon, Cécile Moucheron, Antoine Monclerc, Donald Timmerman et Edine Sakai, et aussi Philippe Barret de l'UCL qui a participé à l'organisation de ce colloque. Et donc, en terminant tout à fait maintenant, je voudrais vous remercier de votre présence. Je suis certain que, en vous souhaitant une très bonne journée de réflexion, je suis certain qu'on va pouvoir, sur base des réflexions qui seront les vôtres, espérer un certain nombre de propositions quant à des potentielles mesures ou stratégies qui pourraient être développées dans le futur au sein de nos universités, de manière générale, pour promouvoir, autant qu'il s'agit d'un objectif que nous validons, pour promouvoir cette interdiction énergétique au sein de l'université. Voilà, je vous remercie, bon colloque et bonne journée.